ton désir n'a pas changé. Tu veux toucher notre cœur. Voilà ce qui a été chanté. Et je voudrais que peut-être à l'issue de ce que nous partagerons maintenant, puissions peut-être avoir un moment où nous prierons pour celles et ceux qui veulent sortir de ce lieu une fois qu'ils auront été touchés par la grâce du Seigneur. Dieu n'a pas changé. Il est celui qui libère. Il est celui qui guérit. On va partager un premier texte ensemble dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. C'est des versets que la plupart des chrétiens connaissent bien. Je voudrais que ces réalités qui ont été partagées tout au long de ce culte, ce qui nous a été rappelé dans un don spirituel, le Seigneur nous a rappelé que la porte de la grâce était encore ouverte. Et l'invitation, elle est là encore ce matin par la parole de Dieu, de pouvoir nous approcher avec confiance. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus dans nos besoins. Il y a-t-il des besoins dans nos vies? Il y a-t-il des besoins dans ta vie? Notre frère a dit en présentant ce dernier chant, voilà, on aborde un peu la période de Noël, c'est les grands préparatifs pour la célébration de la fête de Noël, mais quel sens véritablement cela a pour tout ce qui nous entoure et peut-être même pour nous dans notre cœur. Et je voudrais relire un verset avec vous dans Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4. Parce qu'en définitive, la célébration de Noël n'aurait que peu de sens, voire pas de sens du tout, si nous ne réalisons pas pourquoi le Seigneur Jésus est venu, pourquoi il a accepté l'inacceptable. C'est revenu souvent dans vos louanges ce matin. Pourquoi il a enduré, souffert tout cela, si nous ne réalisons pas qu'en fait il est venu pour nous sauver. Jésus le dit lui-même, Luc chapitre 4, verset 18, et pour moi c'est le sens véritable de la célébration de Noël. L'Esprit du Seigneur, il est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Évangile veut dire bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Voilà pour moi, en tout cas, le vrai sens de Noël. Et il n'a pas changé. Le désir du Seigneur, c'est encore de toucher notre cœur, de guérir, de relever. Les besoins sont immenses autour de nous. Que de souffrances dans nos familles, dans nos milieux professionnels, dans notre société, dans le monde dans lequel nous vivons. Que de souffrances. Mais la bonne nouvelle que nous proclamons encore aujourd'hui, c'est que Jésus n'a pas changé. Et si dans ton cœur, il y a des besoins, tels qu'on a pu le lire dans Hébreux, il peut venir à ton secours. Il a tout accompli pour cela. C'est ce que nous rappelle le repas du Seigneur que nous venons de partager. Jésus compatit à nos faiblesses. Nous avons lu tout à l'heure, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Cela veut dire tout simplement que nous avons un souverain sacrificateur qui est... Voilà, merci. Voilà. Une nouvelle technologie. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas perdu tout à fait le fil. Nous avons un souverain sacrificateur, Jésus, qui a été envoyé par le Père, qui est capable de compatir à nos faiblesses. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Compatir, la compassion, qu'est-ce qu'elle signifie réellement? Vous savez que le mot passion, on parle de la passion de Christ, le mot passion signifie souffrance. Compatir, c'est souffrir avec. Compassion, véritablement, ça signifie souffrir avec, la souffrance avec. Et d'où le titre de notre partage ce matin, Jésus souffre avec nous. Jésus souffre avec nous. Ça veut dire quelque chose de très profond. C'est que Jésus, non seulement n'est pas indifférent à nos souffrances, Jésus, non seulement n'est pas indifférent à nos souffrances, mais cela signifie qu'il ressent au-dedans de lui-même cette souffrance. Et même plus, il connaît cette souffrance. Jésus souffre avec nous. Et c'est là tout le thème de notre message ce matin. Il ressent et il connaît cette souffrance. L'autre chant qui a été partagé par la chorale tout à l'heure nous a rappelé qu'on lui a craché dessus. Tout ce qu'il a subi pour que ce matin nous réalisions pourquoi le Seigneur Jésus est descendu des cieux pour nous sauver, pour nous donner la vie, sans ce sacrifice parfait qu'il a accepté de subir, nous ne pourrions pas être là ce matin. Et aussi pour nous accompagner tous les jours de notre vie, parce que tout ce qu'il a subi, toute cette souffrance incompréhensible, on va y revenir un petit peu ce matin, c'était aussi pour connaître les souffrances qu'il y a dans ton cœur. Vous savez, des fois, on dit, parce que nous aussi, on essaye de compatir avec ceux qui sont autour de nous. Je dis essaye parce que comparé à la compassion que Dieu manifeste envers nous, vous comprendrez que c'est quelque chose de très léger. Je te comprends. Qu'est-ce que ça veut réellement dire, je te comprends? Que nous puissions être imprégnés de cette pensée ce matin, c'est que Jésus souffre avec nous. Comprendre qu'il n'y a aucune souffrance que le Seigneur ne peut comprendre, pour laquelle le Seigneur ne pourra pas compatir. On va lire quelques versets, j'ai vraiment à cœur de lire dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, les cinq premiers versets. Les deux chants que nous avons entendus de la part de la chorale résument très bien tout ce que nous partageons au travers de ce message, c'est-à-dire toutes ces souffrances que le Seigneur Jésus a accepté de souffrir. Il l'a fait pour que nous puissions être libérés, être sauvés, être guéris de nos meurtrissures et de nos souffrances. Ésaïe 53, verset 1er, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4, cependant, ce sont nos souffrances. Vous pouvez mettre, ce sont mes souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Et c'est encore ce matin, par ces mêmes meurtrissures, que vous pouvez recevoir la guérison. Vous pouvez être libéré de cette souffrance qu'il y a dans votre vie. C'est pour ça que je disais, ne repartez pas de ce lieu avec cette souffrance, peut-être des choses que vous n'avez jamais pu exprimer, partager, même avec des gens les plus proches. Combien des fois nous sommes frustrés lorsqu'il y a des peines très profondes dans notre cœur, qu'on essaye peut-être de les échanger avec les personnes qui sont là autour de nous. Et combien c'est dur de se sentir incompris. Et on repart seul avec notre misère. Vous n'aurez aucune raison aujourd'hui de repartir seul avec votre misère. Parce que Jésus compatit. Il souffre avec vous. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous savez, une grande cause de divorce entre le commun des mortels, vous savez, le peuple et nos gouvernants, tout ce qui est la politique, ce qui revient souvent, c'est le grand décalage. Le peuple ne se retrouve pas dans ses gouvernants. Ces gens qui, pour la plupart, disons-le, ont grandi et sont devenus une forme d'élite et n'ont pas connu la plupart des réalités que le commun des mortels connaît. Et c'est vrai que parfois, on l'entend, les gens ne se retrouvent pas dans ces élites qui sont là pour les gouverner. Dans le royaume de Dieu, il n'en est pas ainsi. Notre Seigneur est un sauveur qui a été blessé. Il s'est littéralement mis dans notre peau. Il s'est mis dans notre peau. Tout le mystère de l'incarnation, Jésus, la parole qui a été faite chair, comme le dit le premier chapitre de l'évangile de Jean, il a vécu pleinement la condition humaine. Et ce matin, le plan de mon message, il est simple, c'est juste de revoir très succinctement, mais je voulais vraiment que nous puissions en pointer quelques-unes, juste revoir quelques-unes de ces souffrances que le Seigneur Jésus a endurées, peut-être pour que vous puissiez réaliser et constater, voilà, qu'il y a des souffrances que vous avez dans votre vie et dans votre cœur qui ont été similaires. Et même si vous ne les retrouvez pas, que vous puissiez connaître et comprendre quel genre de souffrance le Seigneur Jésus est capable de comprendre et de vivre avec vous, de souffrir avec vous. C'est un message qui est venu sur mon cœur. C'est vrai que c'est plutôt un message qu'il s'adresserait à des non-croyants, un message d'évangélisation. Mais, vous savez, quand on a fait un peu d'accompagnement pastoral, c'est un petit peu différent, vous savez, le dimanche, on est bien habillé, on se salue, il y a beaucoup de choses. Mais j'ai pu me rendre compte que parfois, même après des années de conversion, dans le cœur des croyants, il y a comme des blocages. Il y a des choses qu'on n'a pas su déposer au pied de la croix. Et je crois que ce que nous partageons ce matin est également pour toi. Si, même après des années de marche avec le Seigneur, tu réalises qu'il y a des souffrances que tu n'as pas déposées au pied du Maître. Il est mort pour cela. Ne continue pas à les garder pour toi. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alors peut-être la première de ces souffrances, qui est une souffrance terrible, c'est le péché. Nous l'avons lu dans Hébreu. Il a été tenté comme nous, en toute chose, sans commettre de péché. C'est en cela que le sacrifice a été parfait et qu'il a pu être agréé par Dieu. Jésus n'a jamais péché, mais il a connu la tentation, toutes ces tentations auxquelles nous pouvons être soumis, il les a connues. Il a été blessé pour nos péchés. Et l'apôtre Paul déclare ceci, « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Dans 2 Corinthiens 5 et le verset 21. Il a fait devenir péché pour nous. Je chante souvent ce chant, ce cantique, trois croix sont dressées Et ce refrain qui rappelle cette réalité que la croix, c'était pour toi, la croix, c'était pour moi, cette infamie, cette agonie, c'est le prix de mon péché. Oui, c'est les Juifs. Oui, c'est les Romains qui, au temps de Jésus, ont sacrifié le Seigneur. Mais c'est aussi mon péché. Il a porté la faute de mon péché. Tant qu'on n'est pas délivré par la puissance de la croix, chaque homme a en dedans de lui une souffrance liée au péché. Beaucoup ne le réalisent pas, mais vous savez, toutes ces souffrances que nous voyons, toutes ces manifestations de guerre, de colère, de haine, de terrorisme, tout cela a une seule et même origine, c'est le péché dans le cœur de l'homme qui anime toutes ces choses-là. Et tant qu'il n'y a pas la puissance de la croix qui libère du péché, l'homme souffre à cause du péché. Jésus souffre avec toi. Il a connu le poids et la misère du péché. Il n'avait pas péché, mais Dieu l'a fait pécher pour nous. Il connaît cette souffrance. Elle ne lui est pas inconnue. Il la connaît véritablement. Et il te revient ce matin, qui que tu sois, quel que soit ce que tu aies fait, il te revient ce matin de déposer au pied de la croix ton péché, de lui demander pardon, et que ton cœur s'ouvre au torrent de la grâce de Dieu qui veut encore pardonner, délivrer et libérer. On peut lire quelques versets dans le psaume 32, c'est le témoignage de David. Vous savez que David a eu un écart important dans sa vie lorsqu'il a commis cet adultère avec l'épouse de Uri le Héthien et qu'il a même fait assassiner cet homme Uri. Et voici ce qu'il déclare pour que vous puissiez réaliser et comprendre les souffrances qui sont liées à notre péché et à nos iniquités. Psaume 32 de David, cantique, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. » Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Qui que vous soyez, quel que soit ce que vous avez commis, là, devant le trône de la grâce, vous pouvez vivre exactement la même expérience. Il n'a pas changé. La porte de la grâce est encore ouverte, comme cela a été rappelé. Et je crois que quiconque, honnêtement, avec beaucoup de respect devant le Seigneur, réalise le poids de sa faute, peut lui demander pardon et être libéré de son péché. Quel bonheur à qui le péché est pardonné. Amen. Voilà une souffrance qui n'est pas inconnue à notre Seigneur. Il a porté le péché de l'humanité entière dans sa vie. Deuxième souffrance, qui peut être là aussi sur nos vies, c'est la séparation d'avec un être cher. Combien parfois ces souffrances provoquent des déchirements dans notre vie. Ça peut être une séparation sous toute forme, ça peut être des divorces, ça peut être deuil, ça peut être des éloignements, quelque chose de terrible. Quoique peut-être on peut nuancer quand même la souffrance entre le deuil et le divorce, parce que, alors ça aussi, c'est pas le monde dans lequel nous vivons et toute l'oppression des médias qui le dira, mais que de drame dans ces séparations. Que de drames, que de blessures dans le cœur. Jésus connaît cette souffrance. Vous savez, dans ces temps très particuliers où le Seigneur Jésus a porté le péché de l'humanité, il nous a dit que pendant 3 heures, il y a eu des ténèbres, il y a eu des manifestations tout à fait particulières. Et il est dit qu'à un moment donné, le Seigneur Jésus, je lis ce qui est écrit à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu n'a pas abandonné son Fils sur la croix, mais à cause de ce péché qu'il avait accepté d'endurer, Dieu a été obligé de détourner le regard de son fils. Quelle souffrance, la séparation d'avec un être cher, un être aimé, avec qui nous faisons route. Dieu a été obligé de se séparer. Cette souffrance, elle est terrible. Elle fait beaucoup de dégâts dans la vie. Dieu compatit. Jésus souffre. Jésus souffre avec toi. Et il veut te guérir. Une autre souffrance, l'abandon. Dans un don spirituel, il nous a été rappelé ce matin que Seigneur Jésus a dit que la plus grande souffrance qu'il avait pu endurer, c'était l'abandon. Quelque chose de terrible, l'abandon. C'était aussi dans ce don spirituel pour nous encourager à être fidèles au Seigneur et de ne pas renouveler cette souffrance dans son cœur chaque fois que nous l'abandonnons. C'est une souffrance terrible, l'abandon. Des personnes sur qui nous pensions pouvoir compter, des personnes qui s'étaient vraiment engagées avec nous, nous abandonnent. Aujourd'hui, des hommes et des femmes, peut-être même des chrétiens engagés, souffrent à cause d'un abandon, peut-être dans l'enfance. Vous savez, tous ceux qui travaillent dans la protection de l'enfance savent les ravages dans le cœur des enfants lorsque tout petit ou à différents âges, ils subissent toute forme d'abandon, parfois même de multiples formes d'abandon. Je ne veux pas m'écarter, mais un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur le divorce, sur tout ce qui est séparation, c'est quand même les enfants qui sont les grands oubliés de toute cette souffrance. C'est des souffrances terribles, mais en plus, c'est des souffrances qui bien souvent se reproduisent sur d'autres générations, surtout quand elles ne sont pas guéries. Jésus a connu l'abandon de ses proches. Il était avec ses disciples pendant 3 ans. C'était vraiment son... Il était... Que n'a-t-il pas fait pour manifester l'amour qu'il avait vis-à-vis d'eux? Je pense à ce dernier temps où il est là, il prend les pieds, il les lave. Enfin, c'est extraordinaire de voir quelle relation Jésus avait avec ses disciples. Et pourtant, il est dit, l'un d'eux avait même dit, mais même s'il me fallait mourir pour toi, il n'y a pas de souci, Seigneur. Je serai toujours là. Vous savez, Pierre, comment cela s'est passé? Je ne dis pas ça pour le juger, je le dis souvent. Et pourtant, quand Jésus a été arrêté dans ce jardin de Gethsémané, aux heures les plus sombres que le Seigneur a connues dans sa vie, vous savez que des grumeaux de sang venaient, c'était quelque chose de terrible, difficile pour nous de le réaliser lorsque nous lisons peut-être même parfois rapidement ces versets. Mais c'était des heures sombres de la vie du Seigneur. C'était plus du tout le même contexte que quand il est rentré à Jérusalem où toute la foule l'acclamait. Quel contraste! Et aux heures les plus sombres, ceux sur qui il aurait pu compter, il est écrit, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous l'abandonnèrent. Voilà une souffrance terrible pour laquelle Jésus peut pleinement compatir. Jésus souffre avec toi, et bien plus que cela, de la compréhension qu'il a de cette souffrance, il peut te délivrer. La croix du calvaire, c'est l'amour parfait, sublime de Dieu qui en fait vient noyer tout ce mal et toute cette souffrance dans l'humanité pour que nous puissions être libérés et que nous marchions en nouveauté de vie. Une autre souffrance, une quatrième souffrance, c'est la trahison. La trahison. Pouvoir s'appuyer sur des personnes, c'est quelque chose de précieux dans la vie. On en a besoin, nous sommes des êtres qui... On a besoin d'être du social, de la relation, on a besoin. Et partager des choses importantes, parfois même intimes, secrètes avec des personnes. Voilà, nous plaçons notre confiance, c'est important pour nous. Mais quel drame dans le cœur lorsque nous voyons que nous avons été trahis. Jésus a connu la trahison. Jésus a connu la trahison au travers de Judas. Ce n'était pas une erreur. Il est écrit ceci, Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait, dans Jean 6, 64. Judas n'avait pas une place à part, une place au rabais par rapport aux autres. Non, il a été traité de la même manière. Même si le Seigneur Jésus savait tout à l'avance, il a été traité de la même manière. D'ailleurs, Pierre, dans sa première prédication, dit ceci, il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Dans Actes 1, verset 17, Judas avait les mêmes faveurs que les autres. D'ailleurs, quand Jésus dira qu'au milieu de vous, il y a un traître, personne ne sait, ce qui prouve que Judas, il était traité à l'identique, personne ne savait de qui le Seigneur, il est écrit ceci, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Judas, malgré qu'il ait eu droit au même amour, a trahi la confiance de son maître. Jésus peut comprendre cette souffrance aussi terrible que la trahison. Mais rappelons-nous, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Peut-être que ça fait des jours, peut-être que ça fait des semaines, peut-être que ça fait des mois que cela t'est arrivé, peut-être que cela fait des années. Il faut que ce soit le dernier jour. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Une autre souffrance aussi terrible, c'est l'humiliation. On va lire ensemble dans Marc au chapitre 15 et au verset 15. Nous ne pouvons pas mesurer le niveau de cruauté et de souffrance auquel le Seigneur Jésus a été confronté tout au long de son arrestation, tout ce temps de la passion de Christ. Mais quand on s'y penche un peu, on se rend compte des souffrances terribles qu'il a accepté d'endurer. Marc, on va lire tout ce récit parce qu'il est dans le contexte de ce que nous partageons. Marc chapitre 15, et nous lisons au verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau craché sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remettirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ceux qui étaient l'objet de l'amour de Jésus se sont moqués de lui. Et ça, c'est des souffrances terribles. On le voit même dans, vous savez, les enfants entre eux. On les voit un petit peu dans les cours de récréation. Vous savez, ils ne se loupent pas pour ça. Hein. Et les moqueries, d'où aussi nous devons faire attention à nos propos et à nos paroles. Les moqueries, c'est quelque chose qui peuvent marquer des souffrances profondes dans la vie des gens. C'est peut-être à cause de notre physique, de nos difficultés, nos maladresses, tellement de situations qui sont souvent pour d'autres l'occasion de se moquer de nous. Jésus l'a dit, l'Esprit il est sur moi, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et il est là encore ce matin, nous le croyons, présent au milieu de nous. Il y a une autre forme aussi de souffrance, c'est l'injustice. L'injustice, j'ai remarqué que c'était souvent une souffrance qui blesse peut-être encore plus profondément le cœur humain, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de nous. L'injustice, voilà, on a fait quelque chose, on est irréprochable dans une situation, et pourtant on nous accable comme si on avait été le plus grand des fautifs. Ça, c'est difficile. C'est difficile à vivre. Jésus l'a vécu. Jésus a même été calomnié. Toute façon, toute la passion de Christ, du moment de son arrestation jusqu'à sa mort, tout a été parfaitement injuste sur sa vie. Lui, il était là pour aimer. Et en réponse, il a reçu de la haine, de la révolte et de la colère. Jésus l'a accepté tout cela pour que nous puissions comprendre combien non seulement il souffre avec nous, il connaît notre souffrance, il compatit véritablement, mais aussi pour que nous puissions comprendre combien il veut nous guérir et nous délivrer. Une dernière souffrance, on a pu la mettre en premier, j'en sais rien, je l'ai marqué en numéro 8 dans ma liste, mais c'est les souffrances physiques. C'est difficile de supporter des souffrances physiques. Le Seigneur Jésus a subi des souffrances physiques qu'on ne peut pas mesurer, en définitive. Ce sont quand même des souffrances qui l'ont conduit jusqu'à la mort. La crucifixion était un choix de peine pour faire mourir à petit feu. On ne le ferait pas pour un animal. On l'a fait pour notre Seigneur Jésus. Le Sauveur, blessé, humilié, injurié, moqué, là, sur la croix, subissant ces clous qui transpercent ses mains, pendu sur la croix, ne pouvant même pas mourir d'une certaine manière jusqu'à ce qu'il y ait asphyxie, finalement qu'on ne puisse plus respirer, des souffrances physiques. Oui, le Seigneur peut comprendre la faim, la soif, toutes ces douleurs insupportables que peut-être tu peux connaître dans ta vie. Jésus souffre avec toi. Je voudrais conclure. Nous avons lu au départ cette invitation, approchons-nous avec assurance, approchons-nous avec confiance du trône de la grâce. Quels sont les besoins dans ta vie? Tu peux être secouru dans tes besoins. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et il nous a été rappelé que le trône de la grâce était encore là au milieu de nous. Quel est ce besoin dans ta vie? Est-ce le péché qui te ronge? Est-ce que c'est les humiliations incessantes que tu vis peut-être dans ton couple ou au milieu de ton travail qui brisent véritablement ton cœur? Est-ce l'abandon? Est-ce l'abandon? Le besoin? Est-ce qu'on t'a injurié? Est-ce qu'on t'a craché dessus? Est-ce la haine des autres? En réponse à l'amour que tu manifestes, Jésus souffre avec toi. Nul autre homme autour de nous ne peut comprendre et mesurer les souffrances telles que le Seigneur Jésus peut le faire. Il n'existe rien que le Seigneur Jésus ne puisse comprendre et libérer. Je le disais tout à l'heure, réalisons qu'à la croix du calvaire, toute cette haine, vous savez, quand on voit toute la passion de Christ, c'est en fait comme si tout le péché de l'humanité s'extériorisait face à la bonté du Fils de Dieu. Il y a un déchaînement du mal. Vous voyez, quand on voit la foule qui demande à Pilate, et Pilate, lui, il est même désemparé dans cette situation parce qu'il ne trouve pas de raison pour arrêter Jésus. Mais la foule qui crie « Crucifie, crucifie !» On sait que Pilate, il voulait satisfaire la foule. C'est vrai que lui, il avait certainement une situation et une position à conserver. Mais quelle haine! Et comme nous dit l'apôtre Paul, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. L'amour de Dieu, le pardon de Dieu qui surpasse tout ce que le mal peut développer contre le Fils de Dieu. L'apôtre Paul, qui a été autrefois persécuteur de l'Église, qui a été un ennemi des chrétiens, avait bien compris cela, la puissance de délivrance qui émanait de la croix, malgré, comme il le dira dans un certain passage, qu'il se considérait comme le premier des pécheurs, celui, finalement, le dernier à qui le Seigneur aurait pu accorder sa grâce et son pardon. Il l'avait d'ailleurs été gracié, il le dit pour cela. Il dira ceci, en effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Amen. Dieu lui-même en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et c'est ce message que nous avions comme responsabilité, en tout cas que j'avais vraiment sur le cœur de partager avec vous ce matin, que Jésus, il n'a pas changé, il est là au milieu de nous pour libérer, délivrer. Et je voudrais vous inviter à incliner vos fronts tout simplement. Et pendant ce temps où je vais prier, voilà, nous restons tous recueillis. Et je voudrais, c'est un peu exceptionnel, mais j'ai vraiment à cœur de le faire. S'il y a dans ton cœur, dans ta vie, une souffrance, et que tu réalises véritablement qu'elle t'empêche de t'approcher de Dieu, et que tu reconnais ce matin au travers de la parole que tu peux en être libéré, délivré, ce matin je t'invite à te lever à ta place, tout simplement. Nous restons les visages recueillis. C'est comme un acte de foi. Oui, il est celui qui libère. Il n'a pas changé, son désir est le même. Le même qu'il avait lorsqu'il marchait sur ce chemin de Jérusalem. La même intention de bénir, de sauver, de relever. Quelle que soit la souffrance qu'il y a dans ton cœur et dans ta vie, ce matin je t'invite à faire un acte de foi. À ta place, tu peux te lever. Le Seigneur te voit, les yeux sont fermés, et nous prions ensemble. Éternel notre Dieu, pardon. Pardon pour le manque de considération que nous pouvons avoir, Seigneur, sur la gravité des souffrances que tu as accepté d'endurer pour mon péché, pour notre péché, pour nos souffrances, quelles qu'elles soient dans notre vie. Oui, ce matin, tu nous rappelles par ta parole combien a été violente cette agression que tu as accepté de subir sur ton propre corps. Mais ce matin, nous voulons faire honneur à ce sacrifice merveilleux en te déposant, en mettant au pied de la croix toutes nos souffrances, Seigneur. Nous voulons faire honneur à ta parole, nous voulons faire honneur à l'invitation que tu nous fais ce matin. Tu vois, Seigneur, tous ceux qui se sont levés. Tu connais exactement ces souffrances. Tu souffres avec eux dans ces situations. Mais Seigneur, nous te disons merci. Parce qu'en cet instant, tu les libères. Merci pour ces prodiges à nos yeux. Merci pour ces miracles que tu fais, Seigneur. Et déjà par avance, nous te remercions pour ces témoignages qu'ils vont nous être communiqués d'une grâce reçue. Pour celles et celui qui a déposé au pied de la croix ce fardeau.